vous suit.
Les titres du journal.
La légende de la Favrine est célébrée aujourd'hui dans les rues du Bourg aux Favres à Montais. Au programme, pas de sens de torture, mais plutôt des frappages de pièces de monnaie, troubadours et dégustations de plats médiévaux au programme. Les eaux de la Veuvaise produiront de l'électricité dès la fin de l'année. Grâce à une nouvelle centrale hydroélectrique, 2% de la consommation totale des ménages veuvaisons sera couverte. En hockey sur glace, c'est le jour J pour l'équipe de Suisse au championnat du monde. Les Helvètes affronteront l'Italie cet après-midi. Et en basket, Vevey espère être sacré champion de Ligue B d'ici quelques heures.
Côté météo, beaucoup de soleil ce matin et cet après-midi, formation de cumulus sur les crêtes avec un faible risque d'averses isolées et des températures chaudes, très chaudes pour la journée. Le point complet sur la météo après le journal. Le journal de la mi-journée avec Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. La rue du Bourg aux Favres à Montais retourne aujourd'hui au temps des rois. On y célèbre la légende de la Favrine, une adolescente qui vivait là il y a 700 ans. En son honneur, une grande fête est donnée où il est possible de se nourrir comme au Moyen-Âge, d'écouter les chants des ménestrels et d'assister à des défilés de soldats armés. Mais qui était cette adolescente connue sous le nom de Favrine? Frédéric Barmont, potier et organisateur de l'événement.
C'est une jeune de l'époque qui a perdu ses parents, sa maman dans un premier temps, son papa dans un deuxième temps, qui a été élevée par sa marâtre, qui au fil des années, sa marâtre est devenue jalouse, qui lui a mis un masque, et puis à l'âge de ses 16 ans, au deuxième week-end de mai, a fait découvrir le visage de la Favrine.
Une légende médiévale qui nous fait remonter le temps, mais qui date bel et bien du 21e siècle, Jean-Charles Buemi, responsable de l'organisation.
Alors la Favrine, c'est une histoire qui a été une légende qui a été inventée par les commerçants de la rue du Bourg à peu près vers 2014. L'idée, c'était de faire venir un petit peu des gens dans cette magnifique rue du Bourg aux Favres qu'on a montée. Comme c'est d'époque médiévale, on en avait un petit peu discuté ensemble et aussi avec Monsieur Beuzat qui était ancien historien de la ville. Et on a créé un petit peu cette légende pour pouvoir justement nous trouver un nouvel événement dans cette magnifique rue.
À noter que les 20 commerçants de la rue du Bourg aux Favres à Montais co-organisent cette journée, un sujet réalisé par Guillaume Abbé.
La Veuvaise va fournir le 2% du total de l'électricité consommée par la ville de Vevey.
D'ici à la fin de l'année, une centrale hydroélectrique exploitera les eaux de la rivière. La municipalité s'est entourée du producteur suisse d'électricité Avantron et sa filiale, le fournisseur Primeo Énergie, pour mener à bien ce projet. Une concession cantonale a été délivrée pour cette utilisation durable des eaux de la Veuvaise. Un projet qui rend Vevey moins tributaire des énergies fossiles achetées à l'étranger. Pascal Moya, municipal chargé de l'énergie.
Il faut absolument sortir de cette dépendance parce que géopolitiquement, on le voit actuellement, c'est très risqué. Dès qu'on a un problème de fournisseur, vu qu'on dépend de l'étranger, ben les prix s'envolent. À la fois, c'est un risque de climat à terme parce que produire ces énergies et la consommer, ça pollue. En plus de ça, on a vraiment une dépendance internationale qui me semble être un risque à beaucoup plus court terme par ailleurs parce que tout le monde va le voir sur ses factures dans ses prochains mois, ses prochaines années.
Des propos recueillis par Guillaume Abbé. Une ferme a brûlé à Krickstetten, dans le canton de Soleure, la nuit dernière. La police pense que l'incendie est d'origine criminelle. Les pompiers ont pu rapidement éteindre le feu. Ce nouveau sinistre s'inscrit dans une série d'incendies criminels dans la région. Où étiez-vous il y a pile 20 ans, le 14 mai 2002? Assistiez-vous au spectacle d'ouverture d'Expo 02? L'exposition nationale sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat vous a-t-elle laissé des souvenirs? Cela n'a pas vraiment été un sujet de conversation cette semaine lors de la session spéciale du Conseil national. Ça aurait pourtant dû l'être. C'est l'avis de notre correspondant parlementaire Serge Jubin à l'enseigne de la chronique des Pas perdus.
Ukraine, renforcement de l'armée, prix des énergies fossiles, TVA, code de procédure civile. Les parlementaires avaient le nez dans le guidon cette semaine au palais. On était bien loin de l'atmosphère d'Expo 02 et c'est dommage de ne pas s'y replonger. 20 ans, c'est à la fois loin et si proche. Une autre époque qui faisait suite à la chute du mur de Berlin, une période de prospérité mondiale, d'insouciance et une grosse envie de faire la fête. Expo 02, c'était la grande et la petite histoire de notre pays, avec ses intrigues, ses critiques, puis un enthousiasme communicatif une fois la manifestation ouverte. J'ai eu la chance de parcourir les artéplages à de nombreuses reprises, à Neuchâtel, Yverdon, Bienne, Morat et sur l'artéplage mobile du Jura, au soleil et sous la pluie, de jour comme de nuit, un autre monde. La Suisse avait osé confier une expo nationale aux artistes qui, eux, ont réalisé des rêves. Le résultat fut bluffant, coloré, très beau et tout a disparu, tel était le concept d'Arte Plages Éphémères. J'ai aimé cette audace artistique et architecturale, créative et chère. On a dépensé 1 milliard de francs de la Confédération pour un truc qu'on s'est empressé de faire disparaître après 159 jours d'ouverture. Expo 02 a aussi révélé des personnages, des femmes, l'artiste Pipi Lotiriste et les directrices Jacqueline Fend, puis la papesse Nelly Wenger.
Le souvenir que je garderai, c'est l'image d'une Suisse qui s'est laissée aller à de l'affection, qui a laissé parler son cœur.
Des politiciens des Trois Lacs ont aussi eu droit à la lumière nationale, celui qui était alors maire de Bienne-en-Stöckli, et le Neuchâtelois Francis Maté, privé de conseil fédéral 10 ans plus tôt, qui a porté son expo à bout de bras.
C'est un moment de bonheur, mais c'est surtout un cadeau qu'on fait au pays, je trouve. Parce qu'avec le soleil qui avive toutes les couleurs de cette expo, on mesure enfin la dimension qu'elle a, et j'espère que la Suisse sera fière de cette exposition nationale.
La prochaine exposition nationale, pour autant qu'il y en ait une, est préplanifiée en 2027. Ce serait la 7e. 4 projets sont en lice. Suizra 27, porté par 5 cantons du Nord-Ouest, les deux Bâles, Argovie, Soleure et le Jura. Nexpo, pour les 10 plus grandes villes du pays. Montagna, pour 5 cantons alpins, Berne, le Valais, les Grisons, le Tessin et Uri. Et le projet X27, porté par des citoyens.
À l'étranger, les exportations d'électricité de Russie vers la Finlande ont cessé durant la nuit dernière. Cela après une annonce en ce sens d'un fournisseur russe, a dit à l'AFP un responsable de l'opérateur du réseau électrique finlandais. La Russie justifie cette décision en parlant d'impayé. L'opérateur du réseau électrique finlandais assure, lui, pouvoir se passer du courant russe. Cette annonce de suspension intervient sur fond d'une montée des tensions entre Moscou et Helsinki, qui a annoncé sa volonté d'atterrir sans délai à l'OTAN sous l'influence de l'offensive russe en Ukraine. Une intention vue d'un très mauvais œil par Moscou qui a d'ores et déjà menacé d'une riposte militaro-technique. La communauté internationale a dénoncé l'intervention de la police israélienne hier aux funérailles à Jérusalem de Shirin Abu Akleh. Le cercueil de la journaliste palestinienne a failli tomber à terre après les coups de matraque contre les porteurs. Des milliers de Palestiniens ont participé aux obsèques de la journaliste américano-palestinienne Dal Jazeera, tuée mercredi d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait un raid militaire israélien en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Elle portait pourtant un gilet pare-balles siglé Presse. C'est un casque de reportage. La mort de la journaliste a suscité une déclaration unanime du Conseil de sécurité de l'ONU qui l'a fermement condamnée. Initiée par les États-Unis, cette très rare position unanime du Conseil de sécurité sur un sujet concernant Israël réclame aussi une enquête immédiate, approfondie, transparente et impartiale. Le championnat du monde de hockey sur glace commence cet après-midi pour la Suisse. Après de longues semaines de préparation, la Native va enfin pouvoir lancer son tournoi mondial à Helsinki. Pour leur entrée en lice, les Helvètes en découdront avec l'Italie sur les coups de 15h20. Et l'objectif sera très simple durant ce premier match, décrocher la victoire pour lancer au mieux une compétition dans laquelle les Suisses espèrent beaucoup. Si la prudence reste de mise, les hommes de Patrick Fischer veulent assumer leur statut de favori. Les explications de l'attaquant du Lausanne Hockey Club, Christophe Bertschi.
Il faut absolument gagner ce match. Nous, on veut absolument gagner ce match. Après, je trouve internationalement, il n'y a jamais des matchs faciles. Chaque équipe mérite d'être là, de participer à ce tournoi. Et puis, je pense pour nous, c'est juste, si on joue notre jeu, si on fait à 60 minutes avec notre vitesse, avec notre fighting spirit, qu'on gagne les battles, qu'on défensivement est solide, transition, on fait notre jeu, etc., etc., on va gagner ce match. On va bien se préparer pour jouer contre eux, on fera des vidéos, puis après, on sera bien prêt pour le début de ce tournoi.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Helsinki, Raphaël Chalvera. Pour l'équipe de Suisse, ce premier match dans l'édition 2022 du championnat du monde est donc prévu à 15h20 contre l'Italie. Les Helvètes devront ensuite rapidement enchaîner. Ils affronteront le Danemark demain soir.
Le Riviera Basket veut décrocher le titre de champion de Ligue B cet après-midi à Zurich.
Opposé au Gaieté Wildcats en finale des playoffs, les Vaudois amènent 2-0. Il ne leur manque ainsi qu'un seul succès pour être sacré. Au vu de l'aisance avec laquelle les joueurs de VRB ont remporté les deux premiers actes, l'issue de la série ne laisse que très peu de place au doute. Les Vevaisons sont appelés à décrocher la timbale dès aujourd'hui dans l'antre de leur adversaire. Mais la formation de la Riviera ne doit pas pour autant crier victoire trop vite cette saison. Les Jaunes et Bleus n'ont perdu que 2 fois et l'une de ces 2 défaites a été concédée en terre zurichoise. Le capitaine de Vevey, Jonathan Dubas, ne l'a pas oublié.
Il ne faut pas oublier que c'est une de nos seules défaites, c'était là-bas à Zurich, on s'est fait surprendre. Ils ont fait aussi une grosse zone, une grosse pression, on n'était pas vraiment dans le match, on a commencé avec un basket qui ne correspondait pas. Et on s'est fait surprendre là-bas. Donc il ne faut pas oublier ce match-là. Et quand on arrive à Zurich, on doit arriver avec la même concentration et la même détermination que ce soir pour finir la série au plus vite. Parce que ça ne sert à rien de... disons de jouer avec les résultats, il faut vraiment dominer cette équipe et finir à 3-0.
Jonathan Dubas au micro de Ludovic Turin. Cet acte 3 décisif de la finale des playoffs de Ligue B entre les Gates et Wildcats et le Vevey Riviera Basket est prévu à 17h30 à Zurich. Et on termine avec du triathlon. Adrien Briffaut a échoué aux portes du top 15 pour lancer sa saison sur le front de la série mondiale. Engagé sur la première épreuve de l'année aujourd'hui à Yokohama au Japon, le Veveyzon s'est classé 16e. Après 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied, le Vaudois finit dans un petit groupe d'une demi-douzaine de concurrents. Il a concédé un peu moins de 2 minutes au vainqueur du jour, le Britannique Alex Yee. Le Néo-Zélandais Hayden Wild et le Français Léo Bergère sont venus compléter le podium.
Merci beaucoup Valérie.